Scarp Ciné.
Séquence 15.
Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarf Sensé, ça tourne.
Et action!
Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir que j'ouvre cette nouvelle saison de Scarp Ciné. Ravi de vous retrouver sur Radio Scarp Sensé, une émission codiffusée sur Radio Club. Votre rendez-vous 7e art, c'est Joris au micro et vous allez retrouver les membres de l'équipe ces prochaines semaines. En ce 3 septembre 2025, je reçois aujourd'hui deux réalisateurs, Aurélien Arzoun et Bertrand Mineur. Ils sortent dans l'ombre de Marlowe aujourd'hui en salle. Avec Margot Perchaman, Bruno Salomon, Thierry Desroses et Armel Dutch. Les deux cinéastes sont avec nous en visio.
Partagez votre cinéma sur Radio Scarp Sensé.
Scarp Ciné sur Radio Scarp Sensé, on reçoit les premiers invités de la saison. Et ce n'est pas un réalisateur, mais deux réalisateurs qui sortent leur film aujourd'hui. Aurélien Arzoun, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour.
Et nous sommes avec Bertrand Mineur, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous sortez votre film ensemble en ce 3 septembre, un film qui s'intitule « Dans l'ombre de Marlowe ». L'histoire, Marlowe est à la recherche d'une boîte légendaire capable de réaliser tous les souhaits. Au moment où elle pense l'avoir trouvée, une révélation stupéfiante la frappe. Un film produit, écrit et tourné à quatre mains. Tout d'abord, Aurélien, est-ce que vous pouvez parler de votre rencontre avec Bertrand Mineur ?
Alors oui, tout simplement, on s'est rencontrés, Bertrand et moi, à la Cité du cinéma de Luc Besson, parce qu'on avait des amis en commun là-bas, et puis par hasard, on s'est contactés, et puis on ne s'est plus jamais quittés. Ça va faire presque 10 ans, il me semble, qu'on se connaît, et puis voilà, on est très fusionnels, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment la même vision des choses au niveau de la réalisation, de l'écriture. Voilà, on a énormément de points communs et puis c'est une amitié qui s'est créée il y a de ça donc 10 ans et qui continue encore aujourd'hui et voilà, tout
c'est
simplement.
Beau. C'est beau.
C'est beau. Justement, Bertrand Mineur, quelle vision vous avez du cinéma, la même vision?
Oui, on a la même vision du cinéma. Après, on a des références qui sont les mêmes. Quand on dit vision de cinéma, c'est différent, c'est-à-dire que On a tous les deux, on a des films qu'on aime chacun l'un et l'autre qui ne sont pas forcément les mêmes. Par contre, au niveau de la mise en scène, au niveau de la visualisation de ce qu'on veut faire, on a la même idée tous les deux. C'est-à-dire que ce qui était très très important et très intéressant pour travailler, c'est-à-dire que on se contredit pas, on se contredisait pas, on se fait confiance l'un et l'autre. Et ça, c'est très important. C'est très important pour éviter de perdre du temps, de l'énergie. Et surtout, quand on a à diriger des acteurs, ne pas avoir deux discours différents. Ça, c'est important, c'est ce qui fait notre particularité.
J'ai lu dans le dossier de presse, justement, que les acteurs dont on va parler dans cette interview étaient unanimes sur votre symbiose, justement. Vous ne disputez pas, vous êtes d'accord, l'un va avec l'autre. Voilà, même les acteurs le ressentent.
Ça, c'est vraiment chouette. Et ça fait plaisir on va dire qu'ils ressentent ça. Nous, de notre côté, on n'a pas besoin de forcer. C'est-à-dire que pendant le tournage, quand Aurélien me disait « je pense que ce serait bien qu'on cadre un peu plus comme ça ou qu'on fasse telle ou telle chose », moi, de mon côté, je le suis, j'écoute ce qu'il me dit. Puis je sais qu'à chaque fois, l'un et l'autre, les idées qu'on a, c'est pour tirer le film vers le haut. Et puis voilà, après, on avait tellement travaillé le film en amont, on savait tellement ce qu'on allait faire avant d'arriver sur le lieu de tournage, qu'on ne pouvait pas... ce que je veux dire, il n'y avait pas d'improvisation. Il y en a eu. Mais ce que je veux dire, que la base était là et on savait ce qu'on avait à faire.
C'est combien de temps de préparation avant de rentrer sur le tournage pour ce film?
Alors, vas-y Aurélien, vas-y.
Alors, en termes de préparation, ce film-là, on a mis à peu près 5 ans. On l'a préparé, donc, en fait, on a tout préparé en même temps.
Écriture
C'est-à-dire que,
comprise, hein.
voilà, l'écriture comprise. Donc, comme on n'avait pas le droit à l'erreur, vu que c'est notre premier long métrage, on avait par exemple préparé un document de 450 pages avec tous les plans de caméra qu'on devait faire en Espagne, dans le désert des Bardenas, avec le plan au sol, l'entrée de champ, vraiment tout. Vraiment très 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 bien décrit pour perdre le moins de temps possible sur le tournage. Et pareil, après, donc on a dû faire les décors, on a fabriqué les décors, les costumes, on a rénové la Ford Capri de 1973 du film spécialement pour le film. En gros, ça a été vraiment 5 ans très intenses, surtout les 3 dernières années où là, il a vraiment fallu préparer au niveau production tout ce qui est la logistique, voilà, l'organisation complexe des 2 mois, des 1 mois et demi, 2 mois de tournage, quoi.
Le tournage, ouais.
Vous
C'est
aimez
ça.
ce cinéma de défi? C'est bien plus qu'un film. Là, on parle même de rénovation aussi, d'un site aussi. On parle de logistique parce qu'on tourne dans un de désert quasiment, en plus sous une chaleur étouffante. Un cinéma de défi que vous aimez réaliser.
Alors là, on sait qu'on n'avait pas le choix aussi. C'est-à-dire que nous, quand on a mis en place le film, on a demandé aux acteurs avec qui on avait envie de tourner, ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils en pensaient, etc., s'ils avaient l'envie de partir sur le film. Ils nous ont dit OK. Et quand on a vu qu'il y avait un boulevard devant nous et que tous les acteurs étaient OK, bon, on s'est dit, bah, il faut se lancer. Et là, après, quand on se lance dans un tel projet, bah, on y amène du sérieux et il faut vraiment être carré. Pourquoi? Bah, par respect déjà pour les gens avec qui vous travaillez, parce que vous avez envie de les mettre dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent rendre ben, le maximum et donner le maximum. Donc c'était important pour nous. Donc oui, on a tout mis en place, c'était un vrai défi. On a eu des températures qui sont montées à 47 et encore parce qu'on s'en souvient là, mais on a peut-être même dépassé les 47 degrés à l'ombre. Il n'y avait pas d'ombre. Mais voilà, c'était un challenge et on s'est dit une fois qu'on s'est lancé dedans, ben on y va, même si c'est compliqué, même si on y perd beaucoup, beaucoup d'énergie, ben c'est pas grave, mais on le fera jusqu'au bout.
C'est vrai que oui, effectivement, on le savait que ça allait être un énorme défi, surtout pour un premier long métrage. C'est toujours très compliqué de mettre en place un premier long métrage et partir dans un désert. Voilà, à 1500 km de Paris, entre guillemets, en équipe réduite, comme ça, effectivement. Au début, on voulait tourner dans un bois, et puis, comme on est fan de western, on s'est dit pourquoi pas un désert, et on avait le choix, soit le désert des Tabernas, soit le désert des Bardenas, et puis on a choisi les Bardenas.
Et on le voit dès les premiers plans, vous êtes vraiment deux réalisateurs, mais aussi deux amoureux du 7e art. On le ressent, cette passion de l'image, cette
Merci.
envie
Ah, merci.
aussi de cadrer et puis aussi d'expérimenter aussi sur l'image. Deux amoureux du 7e art que vous êtes qui nous plongent dans une survie intérieure entre rêve et illusion, passé, présent, imaginaire, réalité. Et on suit Marlowe durant tout ce périple. Qui est-elle?
C'est une fille, une personne forte de caractère. Elle se rend compte voilà, on va pas spoiler le film. Mais en fin de compte, c'est Marlowe, c'est un peu nous, c'est un peu tout le monde. Hein. Marlowe, c'est la personne qu'on a à l'intérieur de nous et qui n'est pas sûre d'elle, qui ne pense pas y arriver, qui doute. Et en fin de compte, c'est elle qui va pouvoir avancer, qui va trouver la force d'avancer. En fin de compte, nous, ce qu'on voulait, c'est on a toujours été touchés par qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'on se l'est tous dit. Il n'y a pas une personne qui ne s'est jamais posé la question une fois dans sa vie en se disant mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans sa tête? Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? Etc. C'est des expressions qu'on entend beaucoup et on s'est dit, mais voilà, on voudrait faire quelque chose sur une personne qui essaye de survivre, d'avancer et qui essaye de trouver la force d'y arriver.
D'où, Aurélien Arzoun, cette envie aussi d'une caméra subjective. On voit beaucoup, on a plusieurs fois le regard du personnage.
Oui, en fait, ça c'était une volonté parce que nous on aime beaucoup préparer, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les plans de caméra, étant donné que que les plans de caméra sont un langage aussi pour raconter une histoire, et qu'on avait des envies Bah voilà, notre façon de mettre en scène a beaucoup été inspirée, comme je vous l'ai dit, des westerns qu'on aime beaucoup. Donc, il y a évidemment tout ce qui est du faciès qu'on retrouve dans les Sergio Leone, voilà, les gros plans sur les yeux, les regards, les couleurs vives qui mettent en lumière vraiment les yeux, tout simplement, des comédiens et comédiennes. On voulait voilà, faire une. Pas une référence, parce que là, c'était aussi nécessaire à raconter le récit. Donc, c'est pas simplement faire des plans sur les yeux pour faire des plans sur les yeux. C'est vraiment nécessaire pour capter les questionnements intérieurs du personnage de notre film. Mais voilà, on s'est inconsciemment, je pense qu'au moment où les plans nous venaient en tête, voilà, on était quand même bercé par cette culture très westernienne, entre guillemets. Pour mettre en scène en mettre mettre en scène ces plans-là, et puis et moi voilà, on essaie de rendre un peu comment dire, sortir du lot, vu que c'est notre premier long métrage. Voilà, on a envie de donner un langage spécifique à notre premier long métrage. On
Et
avait très
grâce,
envie de ça.
exactement.
Et grâce à ces regards, on peut dire que ces silences, voilà, disent beaucoup sur le personnage, et même que les regards, ben, sont aussi comme des armes aussi et peuvent tuer. Et c'est ça qui est fort,
C'est ça,
c'est que c'est
c'est
aussi
ça.
des regards percutants, angoissants. Le cinéma est beaucoup parlant, mais vous avez choisi de faire un film aussi autour du regard et du silence. Mais vraiment qui a une empreinte, vraiment avec une histoire racontée par le regard, presque.
C'est ça. Bah, c'était vraiment une volonté, ouais, effectivement, c'était vraiment une volonté d'être avec Marlowe, en fait, dans ce désert. Voilà, faire partie un peu de son intérieur à elle, vraiment de comprendre au plus profond d'elle ce qu'elle ressent, tout simplement. Et voilà, ça passe aussi, comme vous le dites, par le regard. Effectivement, le regard est une arme, oui.
Et souvent, on dit qu'une image vaut 1000 mots parce que, on va dire, tout ce qui est graphique, tout ce qui est image, ben, peut exprimer encore plus de choses que des lignes de dialogue. Et on s'est dit, ben, qu'est-ce qui se passe quand une personne erre, quand on est tout seul? Alors, on peut se parler à soi-même, hein, mais la plupart du temps, ben, on ressent les choses, on vit les choses, mais ben, sans parler. Tout simplement, donc ben, il y a des moments où ben, on ne parle pas. Et ça a été un des challenges de Margot, c'est-à-dire que de l'actrice qui joue
Margot
le rôle de
Perchaman.
Marlowe, c'était de devoir faire exister le personnage. Alors, c'est pas un film muet, hein, donc je rassure les gens, n'ayez pas peur. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est quand il lui arrive des choses et quand il vous arrive quelque chose et que vous êtes tout seul, ben, c'est de pouvoir exprimer au niveau du faciès, au niveau du visage, au niveau des réactions, ben, ce qu'on ressent et ce qu'elle ressent. Et
Salut les rêveurs! Vous êtes bien sur la fréquence du King.
J'ai dit.
Marlowe. De l'Est. Je viens de l'Est et je
La
cherche.
boîte. Toujours la boîte.
Il y a un homme qui me suit. Je n'ai un long manteau et des grands yeux noirs.
La musique du film Dans l'ombre de Marlowe est signée Bertrand Mineur. Il est aussi le réalisateur avec son complice cinéphile Aurélien Arzoun. Ils sont tous les deux nos invités dans Scarpe Ciné.
Il y a une boîte magique qui apparaît. Et à l'intérieur de cette boîte, t'as tous tes bons souvenirs qui reprennent vie.
Et toi? Tu vas où comme ça?
Je n'en ai pas la moindre idée.
Vous tournez au cœur des canyons où le décor écrase aussi les personnages. Quelle dimension voulez-vous donner à ces décors naturels?
Alors effectivement, nous, on voulait vraiment donner une dimension de prison à ciel ouvert, étant donné, bah, je sais pas si je peux le dire parce que j'ai peur de spoiler le film, mais voilà, étant donné que le film est en équilibre entre réel et imaginaire, on voulait donner à ce désert cette dimension un peu de prison, effectivement, à ciel ouvert, voilà, de désert infini, quoi, tout
C'est ça.
simplement. cette sensation-là de désert infini,
On a
là
l'impression que c'est
où...
une journée parce qu'il y a le ciel et il n'y a pas de... Bon, bref, on va pas spoiler tout ça, mais je suis d'accord avec Aurélien. C'est
C'est ça. Une journée qui se termine jamais, quoi, tout simplement.
C'est un peu une journée sans fin.
C'est ça.
Et puis, c'est aussi un tournage éprouvant pour les personnages, un tournage aussi éprouvant aussi pour l'équipe technique, tourner sous 40 degrés.
Ah oui.
Avec certaines scènes où, en plus, ils sont confinés.
C'est, ouais, c'est,
complètement.
C'est, ah bah, vas-y Bertrand, si tu veux.
Non, vas-y, si tu veux, il n'y a pas de souci.
Bah, c'est vrai qu'il y a une scène qu'on se rappelle très très bien, Bertrand et moi, et je pense que la comédienne et les comédiens aussi. C'est la scène dans le coffre. Effectivement, c'était l'une des entre guillemets des pires journées puisque il y avait un pic de chaleur. Bah, comme on l'a dit tout à l'heure, il faisait plus de 47. Margot dans la scène est enfermée dans le coffre. C'était vraiment très très éprouvant. Voilà.
Ouais, physiquement, on avait un autre acteur qui était allongé sur le désert, brûlant par terre, qui était
C'est ça.
allongé. En plein soleil, bien sûr, heureusement, il y avait des parapluies pour le protéger. Et puis le cow-boy.
Ouais. Alors, le cow-boy, c'est vrai que le comédien
Le pauvre aussi.
Maxime, qui a joué le cow-boy, effectivement, il devait porter une chemise avec un gilet en peau de mouton, avec un gros cache-poussière, une écharpe, le masque, le chapeau, les grosses bottes. Donc, lui, je pense que c'est plus que 47 degrés qu'il a ressenti, effectivement. Il avait
C'est l'idéal si vous allez au pôle Nord, pôle Sud, ou en Laponie, mais pas en plein
Mais par contre, effectivement, le film parle de résilience et c'est vraiment ce que nous tous avons dû faire preuve pour aller au bout de ce film, faire
C'est
preuve de
ça.
résilience.
Oui, et on le voit pas du tout qu'ils ont souffert les acteurs, et c'est ça qui est bien, c'est qu'ils ne le montrent pas. Alors, ce film est habité aussi par des personnages taiseux, avec, on l'a dit, des regards percutants, inquiétants et propres à chacun en même temps. Vous avez beaucoup travaillé aussi sur ces personnages, alors on va pas divulgâcher, mais voilà, chaque personnage a vraiment un enjeu dans le film.
Chacun des personnages a une identité bien, bien différente et bien travaillée qui vont permettre à Marlowe de pouvoir avancer, cheminer jusqu'à son objectif, et trouver ou non cette boîte-là et de pouvoir voir le sens de cette boîte, à quoi sert cette
Et
boîte.
le sens de le, voilà le sens de trouver le sens de cette traversée du désert, tout
Ouais,
simplement. Ouais.
pourquoi elle traverse le désert? Pourquoi elle va à la recherche de cette boîte? Pourquoi tout ça? Et pourquoi ces gens?
J'ai une question justement qui me vient à l'esprit, c'est que quand on est réalisateur, le désert c'est un super décor de cinéma et en même temps ça peut être un danger parce que c'est tellement immense que on ne sait pas finalement où poser sa caméra.
En fait, comme on avait très très bien préparé le tournage, on avait alors préparé déjà avec, vous savez, par Google Maps. En gros, on peut voir les environs en Street View. Donc, on avait déjà un peu pré-repéré les lieux sur Internet, à peu près là où on aimerait bien. On avait fait une carte avec des points GPS, vraiment de chaque lieu de tournage, de chaque décor, où est-ce qu'ils vont être, etc. Sur le planning. Et puis après, on est parti, Bertrand et moi, en repérage dans le désert, quelques mois en amont, pour vraiment confirmer notre volonté. C'est ça qui était rigolo, c'est que, par exemple, pour la scène voilà, où il y a le plus de décors avec le bar à ciel ouvert, c'est là aussi on s'est rendu compte que vraiment on était très fusionnel, puisque on est arrivé sur ce point GPS du repérage, et tout de suite on s'est dit: ah bah moi le bar je le vois là, ah bah moi aussi, là le mendiant Marlowe il rentre par là, ah bah moi aussi. Du coup on avait vraiment cette même vision. Au niveau des entrées de comédiens, voilà, les placements du décor, tout ça, on était vraiment en
On était en
symbiose.
phase, ouais,
C'est
complètement.
ça.
Avec cette tenancière hein, qui est jouée par Armel Dutch. C'est un film autour du silence, certes, mais aussi un film autour des voix. Et vous avez fait jouer des comédiens voix off reconnus dans le monde du doublage, comme Richard Darbois. Il joue le guide dans ce film. Voilà, c'était important pour vous. Quelle place a la voix dans ce film?
Ben nous, on est très axé, on fait très attention à tout. Et le son est très important. C'est-à-dire que la voix des personnages, quand vous avez un acteur, quand vous avez quelqu'un qui doit camper un personnage, pour nous, tout passe par, bien sûr, le physique, le faciès, etc., mais aussi la voix. La voix, quand on pose quelque chose, et les acteurs avec qui on a travaillé sont des gens qui imposent par leur voix, leur présence. Et ça, c'était important pour nous. Pour donner de l'ampleur au personnage, il fallait des gens qui aient de l'ampleur et qui puissent amener toute cette qualité. Et la voix, pour nous, est très, très importante.
Bah, c'est ouais. Ça, même limite, vraiment, quand on choisit de travailler, de proposer à un comédien ou comédienne, on fait très attention à la voix que la personne a, même plus que le physique. C'est-à-dire que, comme on est très sonore, Bertrand et moi, on aime beaucoup vraiment le son, etc. C'est pour ça que, même dans le film, il y a beaucoup de jeux avec l'arrière, en 5 points, avec les ambiances du désert, etc. On fait très attention aux voix des comédiens et comédiennes. Voilà, et c'est pour ça qu'en France, on a la chance d'avoir des comédiens et comédiennes de doublage incroyables.
C'est ça.
C'était vraiment un souhait de notre part de travailler avec Thierry Desroses, Richard Darbois,
Françoise Cadol.
En salle aujourd'hui, dans l'ombre de Marlowe, les deux réalisateurs sont sur votre radio locale pour cette première de la saison Scarpe Ciné.
Et vous leur donnez vraiment un rôle, quoi. C'est pas simplement une voix. Ils ont vraiment un rôle important dans le film. On parlait de Thierry Desroses, donc la voix de Samuel L. Jackson, dans comédien voix off. Il joue le King, animateur radio. Et là, il joue vraiment avec sa voix. Et en même temps, c'est vraiment un personnage qui est aussi inquiétant, qui est drôle et qui est mystérieux aussi, tout à la fois.
Oui. Exactement, il nous fallait une personne qui puisse apporter beaucoup au personnage. Ce qui a été le cas, hein, Aurélien, excuse-moi de t'avoir coupé. Hein. Je t'ai coupé
non, vas-y.
Mais le truc, c'est important. C'est important d'avoir un comédien qui soit bon, super voix, qui ait de la présence, ça c'est bien. Mais après, ce qui a été chouette, c'est qu'ils ont su nous apporter de la matière. Leur personnage, ils ont amené des petites choses pour leur personnage. Ça a été réfléchi, ça a été un travail en équipe, un travail d'équipe, et ça a vraiment été très, très agréable. Et c'est clair que le King, Thierry Desroses, a apporté vraiment une identité. C'est un personnage qu'il a su faire vivre. C'est important.
Et j'ai envie de dire aussi, vous sortez aussi ces acteurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, et Thierry Desroses qu'on aperçoit dans ce film. Est-ce que ça change aussi la manière d'incarner quand on passe devant la caméra ?
Je pense que ça doit pas changer grand-chose, parce que... Déjà, on ne s'est pas posé la question, honnêtement. Juste après, je te passe juste
vas-y,
la main
vas-y,
là-dessus.
Vas-y.
Juste dire qu'en fin de compte, quand ils incarnent un personnage, quand ils ont juste un cadre. Ils ont juste un cadre quand ils l'incarnent. Alors, je me permets humblement de. Je pense que ça doit être ça, mais incarner un personnage. Nous, on leur demandait pas d'incarner un personnage qui existait déjà. On leur demandait de créer un personnage, d'amener. Ils étaient les personnages. Ils sont les personnages. Dans notre film, c'était important qu'ils puissent amener quelque chose, et ils ont su l'amener. Vas-y Aurélien, si tu voulais dire quelque chose, vas-y. Je te passe la main.
Ah, vous êtes vraiment un duo de réalisateurs fusionnels.
Hein. Il y en a même qui rigolent parce que souvent on termine les phrases l'un et l'autre.
Oui, mais je crois qu'on peut le constater.
Oui, ce que je voulais rajouter là-dessus aussi, c'est qu'effectivement, les comédiens et comédiennes de doublage sont avant tout des acteurs et des actrices.
C'est ça.
Parce que effectivement, on n'a pas l'habitude de les voir face à la caméra, mais nous, effectivement, ça nous, comment dire,
même nous, ça nous dérange pas. Nous, ce qu'on voulait... Vas-y, bah, tu trouves tes mots, les mecs. Je vais faire deux secondes pour que tu réfléchisses à tes mots. Ouais.
Non, ce que je voulais dire, je ne sais pas si je peux le dire, mais pour ça nous a même éveillé effectivement un souhait pour notre prochain film, effectivement.
Ah oui, il y a des acteurs avec qui on a envie de tourner encore.
C'est-à-dire voilà, que, et des comédiens de doublage.
C'est-à-dire que nous, qu'on les voit, qu'on ne les voit pas, c'est... on ne s'est pas posé la question, ce personnage, on va moins le voir, on va plus l'entendre, il nous faudrait telle personne. Non, non, nous, c'était, il nous fallait un comédien, chacun des personnages était fait pour servir le film, et eux, c'était comme une évidence de les avoir. Après, dans le prochain film, si il y a des acteurs qu'on voit encore plus, et ben, tant mieux, et ce sera avec un grand plaisir. Mais nous, on ne se pose pas de questions, on ne cloisonne pas. Pour nous, un comédien est un comédien, et voilà, et quand vous avez la chance d'avoir des gens de cette grande qualité-là à votre service pour défendre un film et incarner un personnage, ben franchement, sincèrement, on était les plus heureux des hommes.
Hein. Ouais. Et c'est ça la force de votre film, c'est que vous mettez en avant ces comédiens voix off à travers ces personnages. Et puis d'un autre côté, deuxième force du film, vous faites jouer des comédiens dans des rôles à contre-emploi. Et vous voyez tout de suite où je veux en venir. Mais faire venir des acteurs comme Bruno Salomon, qu'on a vu dans Fais pas ci, fais pas ça, qu'on a vu beaucoup dans les comédies aussi, dans Brise de Nice, dans un rôle de père à contre-emploi, c'est un film, donc encore une fois, avec plein de défis aussi. Parce que je suppose que quand aussi on va voir le producteur où on se dit, bah, y a Bruno Salomon, mais c'est pas le rôle que vous voyez d'habitude. Là aussi, il faut aller chercher aussi des acteurs qui n'ont pas l'habitude de jouer ces rôles.
Mais des acteurs auxquels on croit. Hein. Ouais, c'est-à-dire que nous, on était persuadés que ce serait un personnage qui leur irait bien et que à Bruno lui irait bien. Hein. C'est quelqu'un qui est formidable, qui a un talent, mais une palette de jeux qui est juste extraordinaire.
Ah ouais.
Et pour nous, c'était une évidence. On ne l'aurait jamais proposé déjà si on avait un doute en se disant bah voilà, non, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement talentueux. Voilà, et ça lui va tellement bien. Et il est tellement. La preuve, il a été même récompensé en festival pour son rôle dans le film. Au Festival international de Reims, il a eu une récompense. Donc, c'est pas pour rien que les gens le mettent en avant là-dessus, son jeu, et le fait qu'il soit contre-emploi. Ça, c'est dur. C'est plus dur pour nous, pas à défendre, mais à dire, ben voilà, on veut faire ça. Mais une fois que c'est fait, les gens disent, waouh, c'est vrai.
Oui, c'est un rôle aussi autour de la violence familiale. Donc, c'est vraiment à voir aussi avec une scène assez forte. Dans le dossier de presse, Bruno Salomon dit, j'ai retenu cette phrase, enfin ces mots, le film est taré. Il faut être un peu taré pour faire un film comme le vôtre.
Ah, déjà pour faire une aventure comme celle-ci, oui. Mais ouais, en fin de compte, on a mis un peu tout ce qu'on aimait dans le film. Ça aussi, Dixit, Bruno. Ouais. Quoi que Thierry dit aussi. Ouais. Mais tous, mais même Armel et tout ça. Mais je crois qu'ils étaient aussi tarés que nous de venir dans le film, tous les comédiens. Et ouais, en fin de compte, on a fait un film. On a écrit ce film-là et on se dit, bah, on le fait sans se poser de questions, mais on le fait parce qu'on a envie d'aller au bout du projet, on prend les gens avec qui on a envie de jouer. On ne fait pas un film pour faire un film, il y a vraiment du sens pour nous. C'était important, c'est un sujet qui nous tenait à cœur. C'est un projet qui nous tenait à cœur. Et puis on se disait, voilà, pour un premier long métrage, il faut faire quelque chose de très différent. Il ne faut pas qu'on fasse quelque chose de trop standard, entre guillemets. Donc on a osé, puis après on a un univers assez particulier. Et ça fait toujours plaisir de voir que ça fonctionne.
Un univers repéré d'ailleurs, puisque votre film a été sélectionné dernièrement au Festival du film français d'Angoulême. Pour vous, c'est défendre aussi un cinéma de genre aussi, qui n'est pas assez montré au cinéma.
Pas vraiment, parce que comme on l'a dit, on ne se pose pas de questions. C'est-à-dire que Quand on a eu cette idée de film, c'était pas spécialement parce qu'on voulait faire du cinéma de genre. Nous, on essaye vraiment d'explorer des palettes. Alors, je peux le dire parce que c'est en cours, mais par exemple, notre prochain film est totalement différent de celui-là. Ça
Complètement.
va être une comédie musicale familiale. Donc, c'est vraiment à l'opposé complètement de celui-là. Mais on se passe. Alors, voilà, on se pose pas de questions. C'est-à-dire que quand il y a une histoire qui nous vient en tête, si elle nous plaît, effectivement, c'est parti pour 5 ans. Allez, on y va, on travaille 5 ans sur cette
C'est
idée-là.
ça.
C'est tant que ça nous plaît, c'est ça. Après, on s'est pas forcément posé la question de. C'était pas une volonté, entre guillemets, politique de défendre le cinéma de genre ou voilà.
Voilà.
Si, en tout cas, si ça peut. Pourquoi pas participer à ouvrir le public sur les différents genres du cinéma français? Avec grand, grand plaisir, oui. Mais ce n'est pas une volonté propre à nous.
Non, 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 il n'y avait pas vraiment de volonté. Et puis après, c'est quand vous faites votre film, vous l'écrivez, vous le mettez en place, vous le montez, etc. Et c'est à la fin, vous rendez compte, entre guillemets, même si tout est calculé, et puis vous prenez du recul sur ce que vous avez fait. Et puis vous vous rendez compte que ce qu'on appelle film de genre, c'est dès qu'on commence à mélanger un petit peu les styles, c'est là on dit film de genre, c'est-à-dire que le fait d'avoir, il y a le moment, des panoramas, et du moins des paysages à la western déjà on peut dire un western, alors que c'est pas du tout un western, ça n'a rien à voir du tout avec ça. C'est une espèce de thriller, en fin de compte, ce film-là.
Vous parliez de musique, justement. La musique aussi est un personnage dans ce film, avec cette chanson qui revient en boucle. Et on l'entend de différentes manières, parce que justement, ça joue aussi sur l'émotion des personnages. Et comment une musique, on se dit, ah, c'est encore cette musique-là, mais on l'entend différemment. Et c'est ça aussi, je le répète, mais la force du film aussi, c'est.
Merci.
Savoir jouer aussi sur les émotions et la musique qu'on entendra d'ailleurs en fin d'interview.
Ouais, complètement. Et c'est exactement ça là-dessus. Avec Aurélien, ça nous tenait à cœur, la chanson. Elle revient et c'est amusant parce que à chaque fois qu'elle est annoncée dans le film, qu'elle passe en radio, etc., c'est pas spoilé que de le dire. Déjà, l'animateur ne l'annonce pas pareil. C'est jamais le même titre de film. Ça nous amusait. Et elle a toujours du sens par rapport à la scène. C'est une narration musicale supplémentaire. Ça permet d'habiller la scène et de dire, de faire, on va dire, de rajouter au niveau, soit au niveau de la tension, soit au niveau des sentiments du personnage principal, soit de la situation, tout simplement, souligner la situation. Et c'est vrai que c'était important pour nous, la musique. On a vraiment, comme on le disait tout à l'heure, on fait très attention au son. Donc, on a vraiment fait très attention à cette musique quand on l'a écrite et pour qu'elle ait du sens.
Premier film, on va dire aussi premier bébé, j'ai l'impression pour vous, parce que c'est vrai que c'était 5 ans de travail, c'est aussi un gros tournage. Premier film pour vous deux, où vous êtes autant à la production, à l'écriture, au tournage, au costume, au montage. Qu'est-ce que représente ce film pour vous aujourd'hui, date de la sortie du film?
Alors pour nous, effectivement, c'est comment dire, c'est vraiment une chance au départ là pour nous. Là, le premier mot qui me vient, c'est vraiment chance du fait de voilà que notre premier long métrage sort au cinéma. C'est vraiment une chance pour nous puisque voilà, c'est des années de travail. On va pouvoir enfin le laisser partir de la maison, comme on dit, pour
T'as
le
un enfant,
montrer
ouais.
au spectateur. Donc c'est vraiment la concrétisation de. En tout cas, ça montre qu'on n'a pas fait tout ça pour rien et que quand on y croit, tout est possible, surtout. Parce que en 5 ans, vous vous doutez qu'effectivement, on a eu des hauts et des bas, etc. Donc ça a été vraiment une bataille complète pendant ces 5 années. Et le fait que là, ça y est, le 3 septembre, sort au cinéma le film et que voilà, on le laisse dans les bras des spectateurs. Voilà, c'est vraiment la concrétisation de ce qu'on pensait il y a de ça 4 5 ans, quand on se
C'est
disait
ça.
qu'on avait hâte que le film on le voit sur grand écran. Et du coup, ça nous touche énormément qu'il soit accueilli comme ça dans les cinémas en France. Donc, on a vraiment hâte d'avoir. On a déjà fait beaucoup, beaucoup d'avant-premières, mais on a aussi hâte d'avoir les avis des spectateurs sur les prochaines séances.
Je suis exactement d'accord avec Aurélien. Nous, ce film-là, c'est le début de quelque chose et c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de l'aventure de ce film, puisque bah, pour nous, c'est le point final. Hein, comme le disait Aurélien, hein, c'est un peu comme un enfant. Là, on a tout fait pour lui, puis maintenant, il va faire son petit bonhomme de chemin. Donc, ça fait bizarre. Maintenant, il ne nous appartient plus. Il appartient au public. Et c'est, pour nous, c'est la concrétisation donc, de fruits de travail et c'est le début d'une autre aventure, parce que on va préparer un autre film après, on va continuer là-dessus. Mais c'est important, ce film nous tenait à cœur et c'est important que les gens puissent bah, aller à la rencontre et à notre rencontre en découvrant ce film-là. Et du reste, bah, n'hésitez pas à venir à notre rencontre quand vous nous croisez pour en parler. En tout cas, on est très ouvert à ça et c'est important pour nous.
Et avant ça, de voir le premier film Dans l'ombre de Marlowe d'Aurélien Arzoun et Bertrand Mineur qui étaient nos invités. Ce film sort aujourd'hui, sortie nationale. Merci d'avoir pris du
Merci
temps.
Merci à vous.
Puisque Merci
c'est une
beaucoup,
journée
ouais.
importante pour vous, j'imagine. Et donc, c'est voilà, aujourd'hui que vous pouvez découvrir ce film. Merci d'avoir été nos premiers invités pour cette nouvelle saison de Scarpe Ciné. On se quitte donc avec le son des égaux. C'est la musique du film. Merci à vous.
C'est ça.
Avec
Merci
grand plaisir.
À vous, à
Merci
bientôt.
À tous. À
Merci,
bientôt.
Au revoir.
Zoom sur les métiers du cinéma dans Scarpe Ciné. Entrez dans le monde des tournages.
When you're with me, it's beautiful feeling. I can't stop needing you now. When you're with me, it's a beautiful feeling. I can't stop needing you now. If I stay, if I leave, if I beg you please, will you stay, will you stay, will you stay with me?
Arzoun et Bertrand Mineur, les réalisateurs du film Dans l'ombre de Marlowe, en salle dès aujourd'hui. Merci à eux.
Rencontre avec les acteurs du cinéma en Hauts-de-France sur Scarpe Sensé.
Et pour cette reprise de Scarpe Ciné, eh bien je vous propose l'Instant Ciné de Rémi Boiteux. C'est un journaliste culturel qui officie aussi au Arras Film Festival, qui anime les débats. Et il est interrogé par Carole.
Je suis Rémi Boiteux, actuellement au Festival d'Arras avec, parmi mes casquettes, celle qui est sûrement celle que je préfère. Pour l'association Plan Séquence, pendant les 10 jours du Arras Film Festival, j'ai la joie et le bonheur d'animer des rencontres avec les équipes des films qui viennent rencontrer leur public, et inversement le public qui vient faire des découvertes et des échanges autour du cinéma. Et donc on accompagne toute cette électricité autour du cinéma. Donc c'est ce qui me ramène chaque année vers ma passion première. Alors pour choisir le film déterminant ou le film qui me transporte le plus, j'aurais pu choisir le film par lequel le goût du cinéma s'est développé chez moi, jeune adolescent, puisque j'ai l'affiche dans mon champ de vision, pour tout vous dire, c'est Arizona Dream d'Emir Kusturica. J'aurais pu faire le malin et chercher un film vraiment inconnu, mais que vous pouvez découvrir, qui s'appelle Pour la suite du monde, du documentariste québécois Pierre Perrault, qui est un des plus beaux films du monde. Mais je vais parler un peu plus longuement de Last Days de Gus Van Sant.
Trime le bateau. Alors, quand ça vient le temps de partir de Montréal, bon, faut partir de Montréal. Au milieu d'avril, là, les bateaux commencent à monter, ils commencent à passer ici, là, commencent à s'agiter. Là.
Parce que c'est un film qui est à la croisée de plein de choses qui me transportent dans le cinéma. C'est un film qui a un regard sur le réel qui le transforme comme une sorte d'hypnose ou même d'exorcisme, puisque bon, le film tourne autour des derniers jours de la vie de Kurt Cobain, mais c'est une réinvention poétique. Et c'est ce qui me plaît particulièrement dans ce que peut faire le cinéma, c'est cette réinvention poétique du réel. Et c'est un cinéma qui vient enrichir ce qu'on a pu vivre et les images qu'on a déjà dans la tête.
Have you talked to your daughter? Do you say I'm sorry? And I'm a rock and roll cliché. Cold, dead.
C'est aussi un film que j'ai choisi aussi parce qu'il représente tout un pan du cinéma américain que j'adore, ce cinéma indépendant, où j'aurais pu aussi évidemment parler des films de David Lynch qui me passionnent tout autant. Mais celui-ci en particulier parce qu'il fait partie de la période très libre de Gus Van Sant, et parmi les 3 ou 4 films qui constituent cette période particulière de sa filmographie, c'est celui qui me touche le plus. Il a un sujet grave, mais il invente aussi une forme d'humour, une forme de presque de burlesque triste qui n'est pas sans humour effectivement. Et donc c'est un film que je vois et revois, qui gagne d'ailleurs à chaque vision, ça il faut le dire aussi, que je revois toujours en y trouvant des nouvelles choses et en retrouvant une qualité d'émotion. Maintenant, j'en ajoute quand même un dernier de film, le film que j'ai peut-être le plus vu dans ma vie, qu'à une époque très lointaine, je connaissais par cœur, c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit, de Robert Zemeckis. J'ai revu il n'y a pas si longtemps, et qui a particulièrement bien vieilli, c'est-à-dire que même esthétiquement, il a mieux vieilli que certains films plus récents. Il a un scénario dingue, il est traversé par une énergie incroyable, et c'est un de mes plus anciens souvenirs de cinéma et d'enthousiasme de spectateur.
Merci à Rémi Boiteux, journaliste culturel qu'on pourra retrouver en novembre prochain au Arras Film Festival, et à Carole pour l'Instant Ciné que vous allez retrouver dans les prochaines semaines. Merci d'avoir suivi ce premier numéro de la rentrée. La semaine prochaine, on rencontre le producteur, le coproducteur de HPI, Pierre Laugier. HPI, la série phare de TF1 qui s'achève pour cette 5e saison. Et on aura aussi le retour d'Hugo, un ancien chroniqueur qui revient pour le Ciné Bistrot avec moi-même. J'étais ravi d'animer cette émission et d'être avec vous pour ce retour, pour cette émission Scarpe Ciné sur le cinéma en région, et pas que, vous l'avez vu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain ou jeudi sur Radio Club. Et d'ici là, vous le savez, allez au cinéma.
Scarp Ciné.
Séquence 15.
Votre rendez-vous 7e art en région.
Zoom sur les films et séries tournés près de chez vous.
Clap sur les techniciens du son et de l'image.
Interview, chronique, musique.
Sur Radio Scarf 106, ça tourne.
Et action!